je vais parler de ce qui s'est passé à Nestorius et de ces 5 et 6e siècles qui ont été une rude épreuve pour l'Église et pour la chrétienté. Pendant les 5 et 6e siècles, les discussions théologiques se déchaînèrent de plus belle. Jointes aux invasions barbares, elles contribuèrent à l'affaiblissement de l'Empire d'Orient et à la disparition de l'Empire d'Occident. Le christianisme a payé très cher ces divisions. Il a disparu du sud de la Méditerranée, sauf en Égypte où il subsiste sous la forme d'une minorité asservie. Il a disparu aussi de l'Asie mineure. Je propose une petite excursion dans cette jungle touffue qui a caché beaucoup de chemins de croix. L'hérésie de Nestorius naquit au début du 5e siècle. Elle fut condamnée au concile d'Éphèse en 431 et de Chalcédoine en 451. Nestorius enseignait que le Verbe était uni à la nature humaine en quelque sorte humainement. Sa doctrine est assez subtile. Le catholicisme prêche que Jésus-Christ n'est qu'une seule personne, mais qu'il compte deux natures, la divine et l'humaine. En plus de sa nature divine, le Christ possède toute sa nature humaine. Saint Jean parle de celui que nous avons touché, certaines traductions disent que nous avons palpé. Dans son humanité, le Christ a subi nos misères. Dans son corps, il a eu faim, a été fatigué. Dans son cœur, il était triste et a pleuré. Il avait une âme humaine distincte de sa divinité, mais intégrale. Incontestablement, il y a là un profond et insondable mystère, mais il fait partie de notre foi. Les Nestoriens séparent les deux natures en en faisant deux personnes distinctes. Le Christ, homme Jésus, n'est pas Dieu, mais en quelque sorte un super prophète, comme on dirait aujourd'hui. Un super prophète en qui Dieu opère plus que dans les autres, car il lui est plus uni. La Sainte Vierge est mère du Christ, Christotokos, mais en aucun cas mère de Dieu. Ce à quoi Saint Cyrille répondit, on doit l'appeler mère de Dieu car elle a un fils qui est Dieu. C'est clair et lumineux. Après sa condamnation par les conciles, Nestorius fut exilé en Égypte où il mourut en 451. Mais le nestorianisme avait déjà son clergé. Il subsista et se répandit en Asie. Des missionnaires catholiques et Marco Polo en retrouvèrent au XIIIe siècle les traces en Chine plusieurs siècles plus tard. En effet, circonstance aggravante, les empereurs et les autorités locales prenaient part à ces discussions théologiques, en prenant souvent parti et en jouant sur ces rivalités pour renforcer ou simplement justifier leur pouvoir. Ces siècles connurent une succession presque ininterrompue d'invasions et de guerres intestines. Les vagues d'invasion se succédaient, poussées par des convulsions venant d'Asie. Les barbares, Visigoths, Lombards, Burgondes, Vandales, Francs et Suèves se mettaient volontiers au service de l'empereur ou d'un roi local, en général moyennant un tribut. Mais ils étaient prêts à changer de camp à la moindre occasion. Les puissants de ce monde levaient des impôts de plus en plus lourds pour entretenir une cour fastueuse et une armée réduite au minimum. À quelques détails près, en remplaçant les hérésies par les banques et les syndicats, c'est un peu comme aujourd'hui. Les Vandales dévastèrent l'Afrique du Nord et s'emparèrent d'Hippone en 431, 2 ans seulement après la mort de saint Augustin. Les Huns envahirent la Gaule en 451 et après avoir été battus par une coalition entre Visigoths et Romains, se replièrent sur l'Italie pendant que l'Empire d'Orient guerroyait contre les Perses. Romulus Augustule, qui succédait à un dénommé Olybrius, fut déposé en 475, 7 ans avant l'avènement de Clovis. L'empereur Justinien, de 482 à 565, redonna pendant un temps une véritable puissance et un véritable rayonnement à l'Empire d'Orient qui de temps en temps versait aux Perses un tribut pour avoir la paix sur ses frontières de l'Est et mieux lutter à l'Ouest. D'un tempérament austère, il avait de grands projets. Je parlerai de lui prochainement. C'est à lui que l'on doit le code Justinien en 529 et surtout la construction de Sainte-Sophie entre 536 et 537, un chef-d'œuvre qui marque l'apogée d'un style dont la visite reste un émerveillement après plus de 15 siècles. voulant restaurer l'Empire. Justinien entreprit la reconquête du pourtour méditerranéen. Son général Bélisaire disputa Rome à l'Ostrogoth Totila. La ville changea de main en 546, 547 et 550. Peu de temps après, Bélisaire, son général, battit les Perses en 581. L'Empire byzantin connut alors un nouvel éclat, avec Héraclius monté sur le trône en 610, qui sut reprendre Jérusalem qui avait été prise par les Perses en 614. Les Perses évacuèrent leur conquête en 629 et rendirent à Byzance la vraie croix dans une liesse généralisée. Mais c'était déjà 7 ans après l'Égire. Pendant ce temps, les royautés franques, visigothes, saxonnes, burgondes et lombardes se disputaient l'ancien empire d'Occident. L'empire d'Orient était épuisé et n'avait d'autres ressources que d'augmenter des impôts déjà très lourds. L'empire perse des Sassanides se trouvait au bord de la ruine, lui aussi déchiré par de multiples factions. Les Arabes commencèrent à l'envahir dès 634, 5 ans seulement après la restitution de la croix à Héraclius. En 642, les Arabes atteignirent l'actuel Téhéran. La Perse était vaincue sans rémission, le royaume sassanide s'écroulait. Je dois avouer que l'étude de cette période n'est guère facile, car les guerres se succèdent sans arrêt entre des adversaires d'un jour qui seront alliés le lendemain dans une guerre contre un troisième. Je me permets de citer quelques épiques glanées dans l'histoire universelle éditée par la Pléiade en 3 volumes de 2000 pages sur papier Bible. Je n'ai lu que les 2 premiers, des origines à la réforme. J'extrais donc de cette encyclopédie quelques passages. Depuis longtemps, la Syrie et l'Égypte avaient cessé de s'administrer librement. Elles étaient devenues en quelque sorte des colonies de l'Empire romain puis de l'Empire byzantin. Le schisme monophysite allait bouleverser une harmonie qui n'était qu'apparente. Les populations de ces 2 contrées adoptèrent le monophysisme solennellement condamné au concile de Chalcédoine et qui aliéna contre l'Empire les Coptes et les Syriens. Puisque Byzance prétend imposer ses croyances, disait-il, la Syrie et l'Égypte vont adhérer aux hérésies. L'oppression byzantine avait attisé les haines. Il faut tenir compte de la situation lamentable des armées attaquées. La Perse et Byzance menaient depuis des années des guerres qui les avaient épuisées sans résultat appréciable. De leur côté, les populations crurent avoir tout à gagner. Les Arabes furent considérés comme des sauveurs. Je ne puis m'empêcher de penser aux Juifs des Maccabées, sollicitant le secours des Romains dans les années 160 avant Jésus-Christ. 230 ans plus tard, Titus détruisit Jérusalem. Les pillages apportèrent aux Arabes d'immenses richesses. Au lieu d'être acheminés vers Byzance, les blés d'Égypte furent acheminés vers les villes saintes d'Arabie. Les chrétiens devinrent des sujets de second plan. Après tout, c'était la situation des monophysites sous les empereurs, pensait-il. L'Afrique du Nord avait été récupérée par Justinien autour de 534, en dépit de nombreuses révoltes berbères. Mais, dès 638, des troubles religieux désolèrent l'Afrique du Nord par la faute, dit-on, d'Héraclius, champion du monothélisme, hérésie qui prétendait que le Christ n'avait pas de volonté humaine. Ce fut contre un pays déchiré que les musulmans lancèrent leurs premiers assauts. Dès 647, une petite armée musulmane entama de fructueuses razzias. Le patrice Grégoire essaya d'y mettre un terme avec une petite armée qui fut battue. Les berbères pillèrent ce que les Arabes n'avaient pas pris. En 670, les Arabes revinrent avec une forte armée. En ce qui concerne l'Espagne, rappelons d'abord que des luttes féodales avaient peu à peu ruiné la monarchie wisigothique, qui avait atteint, il est bon de le rappeler, un niveau élevé de civilisation. Il n'est que de visiter le nord de l'Espagne, spécialement les Asturies, où l'art wisigoth a laissé de remarquables chefs-d'œuvre. On a dit aussi que la cuisine marocaine, aussi originale que délicieuse, devait beaucoup aux Visigoths qui s'y sont repliés lors de la Reconquista au Maroc. Mais les luttes intestines ruinèrent. Elles furent si âpres que dès l'avènement d'un roi nommé Rodrigue en 710, le parti hostile ne craignit pas d'appeler les Arabes à son aide. C'est à sa demande que le berbère Tariq débarqua, c'est à demande du parti hostile, que le berbère Tariq débarqua le 28 avril 711 au pied d'une montagne à laquelle les berbères donnèrent son nom, Djebel al-Tariq, devenu Gibraltar. Rodrigue crut pouvoir se contenter d'envoyer une petite escorte qui fut rapidement bousculée. Rodrigue d'un côté et Tariq de l'autre appelèrent des renforts chacun de leur côté. Le berbère fut efficacement aidé par un Julien hostile à Rodrigue qui connaissait très bien la région. La rencontre eut lieu le 23 juillet. Rodrigue fut vaincu et tué à cause de la défection de ceux qui commandaient les deux ailes de son armée. Selon la tactique des razzias parfaitement adoptée à ses troupes, Tariq prit Tolède. Il était à Barcelone en 718. En 721, 10 ans à peine après Gibraltar, ils poussèrent jusqu'à Toulouse. En 725, à Carcassonne, puis ils pillèrent Nîmes. À la mi-octobre 732, Charles Martel les arrêta à Poitiers, ce qui brisa leur élan, sans les empêcher de se replier tranquillement sur l'Espagne, poussant parfois des réseaux jusqu'en Bourgogne. L'élan de l'islam en Occident était brisé. En 737, Charles Martel le reprit Narbonne. Pendant ce temps, quelques îlots de chrétienté subsistaient dans l'Espagne, dans le nord de l'Espagne, région beaucoup plus difficile d'accès. Le symbole en est la victoire de Covadonga, remportée en 722 par Pélage, un roi telet local. C'était 10 ans avant Poitiers. Pour les Espagnols, c'est le début de la reconquête qui durera 7 siècles pour être complète, mais en notant tout de même qu'en l'an 1000, un quart du territoire était déjà libéré. La leçon principale de cette histoire douloureuse, quoique parfois héroïque, est que l'amitié des chrétiens reste un des facteurs essentiels de leur apostolat. La conquête foudroyante de l'islam, qui en à peine 100 ans, de 622 à 732, a conquis l'Asie mineure, l'Afrique du Nord, l'Espagne et l'ouest de l'Inde, est un exemple frappant. Et un exemple inquiétant en notre siècle, où trop souvent les catholiques semblent se délecter de leurs points de désaccord. Que notre nouveau pape sache trouver l'enduit idéal pour combler nos fissures. Je vous souhaite un bon printemps réchauffé et à bientôt pour un nouvel aspect de ce siècle passionnant.